Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpino.
C'est parti !
Pour ce début d'année, on revient sur un documentaire que tout le monde, ou presque, a visionné, en tout cas on l'espère, pendant les fêtes, car il est en accès libre sur Arte, c'est Petite Fille de Sébastien Lifshitz. On va en parler avec Anne-Laure. Salut, bonne année.
Bonne année.
Alors on va faire une petite présentation. Qui est Sébastien Lifshitz? C'est un cinéaste qui vient des arts visuels. Est-ce que tu peux nous présenter un peu son parcours?
Alors, pour présenter son parcours, j'ai déjà parlé de l'année 2020, ça a été quand même sa grande année. Déjà avec le long métrage documentaire Adolescente qui a marqué la rentrée, je ne sais pas si tu l'as vu.
Mm-hmm.
Et qui a fait un carton, il a ramassé vraiment pas mal de bonnes critiques.
Pour toi, c'est à quel âge l'âge idéal pour en faire pour la première fois?
N'importe quel âge, à vrai dire.
Peut-être que ça s'est moins matérialisé en place et en sortie à cause du contexte du Covid. Il y a eu 24 000 places de vendues. Et il y a eu, bien sûr, Petite Fille, qui est au centre de notre épisode aujourd'hui et qui a rassemblé, lui, 1,5 million de téléspectateurs et téléspectatrices devant Arte, et ce, en plein deuxième confinement. À chaque fois, c'est des histoires de filles en évolution, dans un monde qui les écrase et qui les porte un peu les deux à la fois. Les Arock ont mis les deux documentaires dans leur best-of 2020. Ils disent, enfin Jean-Marc Lalanne dit, « La patience documentaire du cinéaste, son art du portrait tout en finesse de touche, cette impressionnante proximité nouée entre les sujets filmés constitue un des gestes de cinéma les plus forts de l'année. »
Oui, on peut qu'approuver. Effectivement, Adolescente, c'est un film qui est sorti entre les deux confinements en septembre 2020. Et d'ailleurs, juste après Mignonne de Maïmouna Doucouré, on peut dire que le film lui fait suite en quelque sorte, puisque le cinéaste a suivi pendant 5 ans, sur une période qui va du collège à la fin du lycée, 2 jeunes filles à Brive, donc Emma et Anaïs, qui sont issues de milieux sociaux assez différents. L'une veut faire du cinéma et l'autre va finir par devenir travailleuse sociale. Et les deux amies vont progressivement s'éloigner aussi au fil de la vie. Alors ce film, c'était vraiment un tour de force au long cours, puisqu'il a réussi à capter des moments quand même assez cruciaux d'intimité. Néanmoins, je pense que le film posait quand même la question de l'intrusion de la caméra et du cinéaste dans la vie de ces adolescentes. Et il faut aussi savoir que ces deux jeunes filles jouaient pas mal face à la caméra ou avec la caméra, en tout cas. Mmh. Voilà, quoi d'autre?
Quoi d'autre? Lifshitz, il est quand même un peu spécialisé et connu pour le fait de montrer des vies LGBT+. On peut d'abord citer évidemment Les Invisibles, qui a été César du meilleur documentaire en 2013.
Je ne sais pas exactement comment je suis redevenu homosexuel. D'ailleurs, je dois te dire que j'ai une femme et 5 enfants. Oh mon Dieu.
Donc tu l'as vu manifestement, et moi aussi, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. On voyait plein de petits vieux et plein de petites vieilles qui racontaient leur vie cachée, à une époque où c'était pas accepté en fait d'être lesbienne ou d'être gay. Il y avait des couples de personnes âgées, c'était extraordinaire d'avoir accès en tout cas à ce témoignage-là. Parmi ces personnes âgées, Thérèse Claire, la star montreuilloise, qui racontait les avortements qu'elle avait subis sur sa table de cuisine. Donc encore une fois, l'occasion de se rappeler d'où on vient.
Il faisait si beau, le soleil était si chaud, et nous si nus. Ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure.
Il y a eu aussi Wild Side, un travail documentaire sur les travailleuses de la nuit, avec beaucoup de femmes trans. Il a fait aussi un documentaire sur Bambi, de son vrai nom Marie-Pierre Pruvot, qui était une célèbre femme trans, meneuse de revue et reine de la night.
Je voulais pas dire mon prénom. Ce prénom Jean-Pierre, c'est quelque chose que je détestais. J'avais la haine de ce prénom. Je voulais pas être ce prénom. Je n'accepte pas l'idée que je sois un garçon. Ce que je suis, c'est une femme.
Oui, et tu parlais justement de Thérèse Claire. On lui doit aussi un autre film qui s'appelle « Les vies de Thérèse » qui relate le parcours hors norme de Thérèse Claire, qui a été une femme divorcée, puis militante au MLF, qui a ensuite fondé la Maison des Femmes de Montreuil, qui est devenue un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences, et qui a aussi fondé, en dernier lieu, la Maison de Retraite des Baba Yaga, qui est donc une maison de retraite pour femmes, féministes. Et surtout, voilà, son dernier geste politique, ça a aussi été de montrer sa mort dans ce film. Alors, Sébastien Lifshitz s'est aussi essayé à la fiction. Personnellement, je trouve que c'est un excellent documentariste, mais j'ai été moins convaincue par sa fiction qui s'appelle Plein Sud, qui est un road movie estival qui est sorti en 2009 avec Léa Seydoux. Voilà, ça ne m'a pas laissé de souvenirs mémorables.
Ouais, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Alors, pour revenir sur son travail sur les vies LGBT+, qui est quand même important et respectueux, ce qui est quand même une rareté dans le paysage audiovisuel français, faut-il le rappeler, un travail dont il a fait sa spécialité. Certaines personnes s'attristent quand même du fait que c'est encore une fois un homme blanc cis qui se spécialise dans ces narrations-là, ou en tout cas qui a les moyens de se spécialiser dans ces narrations. C'est vrai que quand on sait que le cinéma, c'est une histoire de gros sous, c'est quand même un gros problème. Par exemple, on peut rappeler que les personnes trans en particulier, quand elles ont envie de produire des films sur leur propre vie, quand elles sont ou ils sont cinéastes et ont envie de le faire, c'est la grosse galère. Voilà, les personnes concernées n'arrivent pas à proposer leur sujet jusqu'au bureau des producteurs et des productrices, et ça, c'est quand même problématique.
Oui, la question du manque de diversité dans l'industrie du cinéma est toujours un peu la même. En tout cas, pour parler justement du documentaire Petite Fille, c'est un film qui a fait découvrir au grand public une problématique qui était presque esquissée dans Tomboy de Céline Sciamma. Le film a été présenté au dernier festival de Berlin. Donc c'est un documentaire qui suit Sacha pendant l'année de ses 7 ans, à un moment où elle va particulièrement affirmer son identité de genre. Alors, il faut savoir que c'est le cas depuis toujours, mais que cette affirmation se fait de plus en plus claire, en tout cas au moment où le film la saisit. Et évidemment, on ne fait pas de bons films sans conflit. Et c'est justement un moment de conflit avec l'école qui ne l'accepte pas comme elle est.
Qu'elle est juste pas née dans le bon corps et c'est pas elle qui l'a choisi, quoi. Quand je vois à l'école qu'on lui dit non, t'es née en tant que garçon, t'es pas née en tant que fille, donc tu es un garçon. Et ça, je comprends pas.
Les larmes aux yeux, c'est quand tu penses à l'école.
Et donc, le documentaire est ponctué de rendez-vous chez une médecin qui est spécialiste de la transidentité à l'hôpital Robert Debré à Paris. Et ça permet de rappeler le problème de la centralisation en France. Le film se passe d'ailleurs dans la région de Reims. On voit qu'il y a peu de ressources, peu d'informations sur toutes ces questions. Et le but est aussi de dire que ça pourrait être n'importe quelle famille, n'importe où. Et alors, contrairement à nos attentes peut-être de spectateurs et de spectatrices, ce n'est pas l'histoire d'un conflit familial, puisque le sujet, ça pourrait être aussi être le parent d'un enfant trans. C'est presque la mère, en fait, qui est davantage le sujet du film.
Mais je pense que vraiment, la chose qui m'a le plus marquée, Sacha avait 4 ans. Et me disait encore, maman, quand je serai grand, je serai une fille, etc. Puis je lui dis, mais non, Sacha, tu seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mise à pleurer. Mais c'était pas... C'était un vrai pleur de douleur. C'était vraiment le pleur de... Je venais de foutre sa vie en l'air. Je venais de briser tous ses rêves en disant ça.
On voit bien tout le dévouement parental et la culpabilité, puisque le film s'ouvre avec cette scène chez le médecin généraliste qui demande « Est-ce que vous avez toujours voulu que votre enfant soit une fille ?» Comme si l'intention parentale avait une influence sur l'identité de genre des enfants. Voilà.
Ouais, et l'influence maternelle en particulier, on a l'impression qu'il y a toujours cette culpabilité-là. Mmh. Mais c'est vrai que dans ce film, le fait que les parents fassent bloc avec l'enfant, c'est quelque chose qui est, à mon avis, crucial et qui explique aussi le succès de réception du film. Ce qu'on voit dans ce film aussi, c'est la solitude de cet enfant, malgré ce bloc de famille et sa douleur parfois. On la voit pleurer, ce qui peut être un peu répétitif, encore une fois, dans les récits des vies LGBT+. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vérité documentaire. L'école, c'est un peu l'angle mort. On n'a pas trop de scènes filmées, sans doute parce qu'il n'a pas pu avoir les accords nécessaires. Mais on voit bien de loin que c'est un lieu de surveillance normé des corps. On voit aussi qu'il y a toujours une forme de harcèlement entre les enfants, le fait qu'ils se jugent les uns les autres sur des questions de normalité. Il faut aussi rappeler que l'initiation à la santé sexuelle, c'est quelque chose qui devrait d'abord être proposé aux professeurs. Ils devraient, elles devraient y avoir droit d'abord. On voit combien les profs et le directeur de l'établissement ont du mal à accepter cet enfant et les différents barrages qu'ils ont dans la tête et qui devraient vraiment être abolis. D'ailleurs, tout ça est montré dans une scène presque sordide, une réunion scolaire que la mère a dû mettre en place pour que son enfant soit accepté dans l'école et où personne ne vient. C'est lunaire et c'est très triste. Le spectateur ou la spectatrice n'est pas témoin de la violence des enfants et de la violence du corps enseignant, mais cette absence-là, le fait que ce soit rapporté par les silences de la petite fille, c'est, je trouve, encore plus fort. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que c'est ni voyeuriste, ni complaisant en même temps, donc c'est vraiment très riche. Ce qui est aussi intéressant avec ce film, c'est qu'il y a eu un gros hasard de calendrier. Le film a été diffusé peu de temps après que le combat d'une petite fille de CE2 d'Aubignan, Lily, soit remporté. Il avait fait la une des journaux après que le rectorat d'Aix ait enfin approuvé qu'elle porte son prénom en classe.
Je leur ai expliqué que j'étais une fille, que j'étais née dans un corps de petit garçon, mais je voulais être une fille. C'est comme si... plus personne ne savait qu'avant j'étais un garçon.
Ses parents, Guillaume et Christelle, eux le découvrent en février dernier. Cela fait alors 4 mois qu'ils sont démunis face à la détresse de leur enfant.
On s'est dit que c'est parce qu'elle a intégré une nouvelle école, donc on a essayé de la réconforter, tout ça. Et puis, en fait, ça a été crescendo. Elle nous a dit plusieurs fois par jour que sa vie était... Comment tu disais, tu te rappelles ?
Et elle.
Et puis ça empirait encore avec des idées suicidaires, des phrases à tire-larigot de ma vie est tellement nulle que je préférerais mourir. Et puis avec un travail de discussion, on a pu faire en sorte qu'un soir, ça sorte, quoi.
Et je me rappelle, c'était quelque chose de fou, parce qu'il y avait encore, on y reviendra tout à l'heure, une couverture médiatique terrible. Et ses amis, à cette petite Lily, l'appelaient déjà comme ça dans l'école, et les représentants de l'éducation nationale, non, refusaient. Et c'est un peu la même histoire qu'on voit avec Sacha dans ce documentaire.
Oui, alors si on devait retenir quelques points positifs, d'abord on pourrait dire que c'est un documentaire très pédagogique, puisque à travers le regard de la caméra, on ne se questionne jamais sur l'identité de genre de cet enfant, c'est bien le but. On voit la transidentité à l'épreuve à la fois du cadre intrafamilial, mais aussi de plusieurs institutions qui portent un certain discours normatif sur l'identité ou l'expression de genre. Donc il y a l'école, tu l'as dit, mais aussi le conservatoire de danse. Et il y a plusieurs très belles scènes et très beaux moments de solitude dans ce conservatoire. En tout cas, voilà ce qui nous est expliqué très simplement. On peut être né dans un corps de garçon et se savoir fille. Voilà. Et c'est quelque chose qui va au-delà des vêtements. C'est une question d'autodénomination et aussi d'autodétermination. Voilà. Après, en petite note de bas de page, on peut quand même rappeler que les personnes trans ne sont pas non plus là pour faire de la pédagogie aux personnes cis. Voilà. Et moi, j'ai aussi bien aimé le personnage de la sœur qu'on voit assez peu, mais qui fait vraiment front et qui dit qu'elle va défendre sa petite sœur bec et ongle. Et, je la trouve très cool. Voilà. Et toi ?
Ouais, je l'ai trouvé très cool aussi. Mon Gwyndar a un peu fonctionné, mais on ne saura jamais. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est que contrairement à Girl, le film belge de Lucas Donde qui était sorti en 2018, ce film-là n'est pas focalisé sur la génitalité. Encore une fois, c'est quelque chose qui est continuel quand on raconte des vécus de personnes trans, de raconter les opérations, de raconter la transition, alors que c'est vraiment très accessoire. Ou alors, en tout cas, on peut essayer de varier les discours. Il faut aussi rappeler que ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Et là aussi, le documentaire permet de rappeler les basiques et de faire un peu de l'éducation populaire. On adore la spécialiste de l'hôpital Robert Debré, dont tu as parlé tout à l'heure, qui insiste aussi auprès de la mère, puisque le père, on le voit qu'une seule fois dans son bureau, pour sortir de la binarité. Sacha est une fille, oui, ça ne veut pas dire qu'elle n'embrassera pas son corps de naissance comme un corps de fille. C'est très mignon d'ailleurs de voir que la mère essaie d'enfoncer le clou une fois qu'elle a compris tout ça, quand elle trie toutes les deux les vêtements et que la mère lui dit « Tu sais, les filles aussi peuvent aimer le bleu. » C'est archi mignon.
Bon, alors il y a aussi peut-être un certain nombre de réserves ou de critiques que l'on peut émettre. Moi, de mon côté, je regrette qu'on n'entende pas davantage le personnage principal du film, qui est Sacha, qui parle assez peu. Je regrette aussi que le père soit absent à la fois du cadre, mais de la société française en général, et je pense que c'est assez parlant. Mmh. Évidemment, tu l'as dit, c'est dommage que Sébastien Lifshitz n'ait pas pu filmer la cour de récré et les réactions des enfants, et on suppose effectivement que c'est une question d'accès et d'autorisation. Il faut rappeler aussi que dans les discours, il y a souvent une pathologisation et une médicalisation des corps trans et que ces personnes, pour avoir le droit d'exister, doivent souvent passer par la médecine. Donc ça, c'est quand même un problème. C'est aussi un problème qu'on retrouve dans le film. Par ailleurs, la question des bloqueurs de puberté et de la sauvegarde de la fertilité se pose aussi à la fin du documentaire. Voilà, et celui-ci a sans surprise provoqué des débats chez les féministes TERF, c'est-à-dire les personnes qui ne reconnaissent pas la transidentité.
Les personnes TERF, oui, et aussi les journalistes TERF. Hein. C'était absolument terrifiant, le traitement médiatique autour de ce documentaire et autour de l'histoire de Lily. Encore une fois, comme c'est sorti au même moment, on peut faire le parallèle. Les journalistes s'en sont donnés à cœur joie pour ne pas du tout appliquer la charte de l'AJL, l'Association des journalistes LGBT. La presse ne sait toujours pas parler de la transidentité, ne sait pas toujours reconnaître sa transphobie. Parfois, quand des contenus sont signalés, les journalistes persistent à continuer de mégenrer, c'est-à-dire de qualifier les personnes avec le mauvais genre. C'est absolument terrifiant puisque c'est anti-journalistique. Bref, encore une fois, le pitch du film, ce n'est pas l'histoire d'un petit garçon qui décide de devenir une petite fille, vraiment. Ce n'est pas la bonne histoire, donc sois un bon journaliste et fais la bonne histoire. Il cite, et elle cite aussi facilement, les dead names, parfois dans les titrailles, et ça, c'est terrifiant. Pour faire une petite revue de presse, on peut voir par exemple que France Bleu avait titré pour l'affaire de Lily, transgenre B, donc le dead name, pourra être appelé Lily à la rentrée. Encore une fois, on est en 2021 maintenant, et tout n'est toujours pas réglé.
Oui, on a vu aussi les problèmes que ça a posé à la presse lorsque le comédien Elliot Page a fait son coming out trans. Voilà, ça a été un festival de mauvaise écriture journalistique qui, en fait, n'a rien à voir avec le militantisme, qui est juste de bien faire son travail.
C'est ça.
Voilà, sans prendre ses lecteurs et ses lectrices pour des idiots. Alors, une question qui a été posée par rapport à ce film, c'est peut-on, doit-on le faire voir à des enfants ? Toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, je pense que c'est une bonne idée. Peut-être plus des pré-ados, parce que les questions de sexualité, les questions de genre, c'est quelque chose qui arrive plutôt quand on va taper dans la puberté. Mais après, je pense que même sans montrer le film, ça peut être l'occasion pour les parents de se rendre compte que ça peut être intéressant de lancer des conversations sur l'identité de genre, même auprès des tout-petits. Enfin, on peut aussi parler de la binarité, de l'acceptation des autres et non de la tolérance. Encore une fois, et aussi de parler des discriminations, par exemple sur l'affaire de Lily, dire tu sais, il y a une petite fille qui n'a pas eu le droit d'aller à l'école alors qu'on est dans un pays où tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Cette petite fille-là, elle n'a pas eu le droit parce que si et ça. Je pense que ça peut être chouette. Je sais pas toi ce que t'en penses.
Oui, en fait, bon, moi je n'ai pas d'enfants, mais des amis qui ont des enfants disaient qu'il valait mieux éviter parce qu'on voyait Sacha pleurer. Moi, ça ne m'a pas choquée. Enfin, elle ne passe pas non plus l'intégralité du film en pleurs. Après, ça peut aussi peut-être donner du grain à moudre à l'idée selon laquelle la transidentité est forcément une tragédie.
Ouais.
Voilà. Bon, en tout cas, moi, je pense que c'est toujours bien de montrer des films aux enfants. Donc,
Et surtout, on la voit danser aussi.
Ouais,
on
bah
la
oui,
voit
oui.
danser, rigoler.
Et alors, pour aller un peu plus loin autour de ces questions, on rappelle à toute fin utile que les filles et les enfants LGBT+, sont les plus touchés par les violences intrafamiliales et que parmi les mineurs isolés, sans domicile fixe, beaucoup sont LGBT+. D'ailleurs, le Refuge, qui est un lieu qui accueille des jeunes LGBT+, à la rue, à Paris, a fait récemment les frais de dysfonctionnement qui brûlaient les lèvres de beaucoup de monde depuis longtemps. C'est une enquête que vous pouvez retrouver chez Mediapart.
Des personnes qui témoignent dénoncent d'abord des conditions de travail très difficiles. Voilà, une d'entre elles nous disait avoir fait des semaines parfois de 39 heures en plus de son travail. Ils dénoncent aussi un management par la terreur, avec une direction qui ne supporte pas être contredite ou remise en question. On montre d'ailleurs dans l'article que la direction n'a pas hésité plusieurs fois à menacer des bénévoles ou des salariés. En avril 2020, Nicolas Noguier, donc président de l'association, avait demandé à son avocat s'il pouvait porter plainte pour non-assistance à personne en danger contre toute la délégation de La Réunion dont les bénévoles venaient de démissionner. Voilà, donc c'est des éléments assez lourds. Et en plus, ce sont des faits récents hein, qui mettent à mal le démenti de l'association, qui affirme notamment que la grande majorité des sujets cités dans l'article sont vieux de plusieurs années. On voit avec rien que ces faits-là et d'autres qu'il y a des choses très très récentes.
On peut aussi rappeler que malheureusement, une lycéenne de Fénon à Lille, qui avait gardé son nom de naissance, Fouad, s'est suicidée après que l'équipe pédagogique ait refusé qu'elle vienne vêtue en robe et en jupe. C'est une terrible histoire qui a été portée par beaucoup de militants et militantes ces derniers temps.
C'est dur parce que on s'y attendait pas en fait, on s'y attendait pas du tout.
Tandis que chez nous, dans la presse, notamment le Figaro, par l'intermédiaire de Eugénie Bastier, on tente d'importer des vieilles polémiques transphobes venues des États-Unis et d'Angleterre sur l'irréversibilité des transitions. Alors il faut savoir, quand même pour contextualiser, que les personnes qui regrettent leur transition sont vraiment très minoritaires et que du coup, cette minorité n'infirme pas la norme qui est des gens satisfaits de leur transition, selon cette l'article « La transidentité serait aussi un phénomène de mode ». Voilà, je vous invite donc à ne pas lire cet article.
Le phénomène de mode, on l'avait vu aussi pour les personnes bi ou pour les personnes lesbiennes ou gays. Hein. C'est un truc qui revient régulièrement. Oui, et oui. Ça fait in de se faire taper dans la rue ou d'être menacé de mort. Ouais. Si tu parles des États-Unis, on peut aussi rappeler que là-bas, la situation des LGBT kids est un peu plus prise en charge et un peu mieux connue, même si c'est un peu les États-Unis, donc il y a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des thérapies de conversion. Mais il existe aussi des colonies de vacances de type queer camps, rainbow camps, pour les enfants et les adolescents et adolescentes LGBT+.
Ouais, on en veut en France.
On en veut en France. Je me souviens, moi, perso, d'avoir assisté à une journée du souvenir des personnes trans. C'était à Las Vegas et j'avais été saisie parce qu'il y avait un petit garçon qui était venu prendre la parole. Il avait dit qu'il avait fait son coming out trans un an auparavant. Il devait avoir 8 ans. Là, je me suis rendu compte du gap entre la France et les États-Unis, puisque ce petit garçon, il avait deux sœurs et ses deux papas étaient prêtres. mais bon, voilà, encore une fois, les États-Unis, hein, c'est un peu le chaud et le froid en même temps, quoi.
Et alors, dans la pop culture, on peut aussi voir la dernière saison de la série animée Big Mouth sur Netflix, la série de Nick Kroll. Et on a une adolescente trans en colonie de vacances, justement. Et je trouve que le traitement de ce personnage est vraiment intéressant.
S'il vous plaît, appelez-moi Nathalie maintenant. Je voulais vous dire moi-même que je suis transgenre. J'utilise les pronoms « elle » et « ça ». Je suis sûre que ça ne vous pose aucun problème, n'est-ce pas ?
Parmi les célébrités aussi, on peut citer la fille de Charlize Theron, et les fils de la chanteuse Cher et de l'ex-couple Brangelina, donc Brad Pitt et Angelina Jolie. Et pour lire des livres pour enfants ou en offrir, on vous recommande Georges à l'école des loisirs, mais aussi Julien est une sirène à l'école des loisirs.
Et aussi Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans, aussi à l'école des loisirs, qui est vraiment une merveille. Et moi, qui m'a beaucoup plu quand j'étais petite fille.
Merci pour toutes ces références. J'espère qu'on a fait le tour de la question. Dites-nous si vous avez vu et aimé Petite Fille. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez aussi retrouver toutes les références de l'épisode dans le descriptif de l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine où on parlera du Québec comme possible terre d'expatriation féministe. Mmh. Salut, merci Anne-Laure.
Merci à toi.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Anne-Laure Pinault.
Mixage Laurie Galligani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Prise de son Thibaut Delage à l'arrière-boutique. Réalisation et coordination Ashley Tola.